Bonjour à tous et à toutes. Le Seigneur vous bénisse et vous encourage tous dans la présence. Hein. Nous sommes devant le Seigneur. Jérôme, veux-tu nous conduire dans la prière pour commencer? Amen. Eh bien, le texte de ce matin se trouve dans l'épître de Tite. C'est l'épître de Paul à Tite. Et c'est au chapitre 2. Et nous allons lire les versets 11 à 15. Alors, Tite, chapitre 2. Versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Voilà, vous avez là tout un programme. Hein. C'est quand vous lisez ces quelques versets, vous voyez que Paul a une densité absolument extraordinaire pour dire les choses, et vous avez d'enseignements en quelques mots. Et c'est la première chose que nous découvrons dans ce verset, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est le président des États-Unis, Abraham Lincoln, était connu pour avoir aboli l'esclavage aux États-Unis. La nation pratiquait l'esclavage, avait des esclaves, et cet homme a eu le courage de dire non, c'est fini. Et il a fait voter une loi qui abolissait l'esclavage sur le territoire des États-Unis. Et cela a provoqué une guerre, la guerre civile, hein, qui a séparé le pays en deux. Et les États du Nord, eh bien, étaient abolitionnistes, et les États du Sud étaient sécessionnistes. Voilà, ils ont donc choisi de se séparer de l'Union. Et bien entendu, ces peuples, ces deux parties se sont battus pendant des années. Et il y avait évidemment des espions dans le camp de l'un, dans le camp de l'autre. Et un jour, un espion du Sud a été attrapé dans le camp du Nord. Et alors, vous savez comment cela arrive, hein? Quand un espion est attrapé en temps de guerre, c'est la mort. On ne cherche pas à comprendre, c'est un jugement et c'est terminé. Hein. Et l'espion a été mis en prison, et le président, qui était un homme de cœur, c'est pour cela aussi qu'il a aboli l'esclavage, et qui était chrétien à mon avis, il a dit il y a trop de sang, beaucoup trop de sang. Et il a accordé la grâce à cet espion. Et l'espion est sorti de prison, libéré, libre. Et vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il est resté dans le Nord. Et son meilleur ami, c'était le président des États-Unis. C'était Abraham Lincoln. C'est une petite histoire. Hein. Mais cet homme ne parlait qu'en bien du président. Alors qu'avant, il était son ennemi. Brusquement, par la grâce, il était devenu son ami. Il avait découvert que la grâce avait changé cet homme, avait fait de lui un homme différent. Il avait compris la nature du président. Il avait compris que la guerre qu'il menait était une guerre absurde, qu'il avait tous les torts. Et il est passé dans le Nord. Et voilà, nous étions dans un camp. Nous étions perdus. J'étais perdu dans mes péchés. Et je me rappelle mon temps de rébellion. Je me rappelle quand... je n'étais pas un grand pécheur, vous savez. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Si, j'ai volé. J'ai pas tué. Voilà. J'ai pris quelques pégadilles. Un jour, j'ai tout remboursé, j'ai tout écrit des lettres et j'ai dit voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai confessé mes péchés. Hein. J'ai écrit des lettres. Je dois avoir encore quelque part dans mes archives les lettres que j'ai écrites et les réponses que j'ai reçues parce que j'ai voulu tout mettre en règle un jour. Hein. Mais j'étais un pécheur. Pas un grand pécheur. Pas un grand voleur. J'ai pas cambriolé une banque. J'ai pas fait ceci et cela. Mais néanmoins, mon plus grand péché, c'était ma rébellion contre Dieu. Je n'ai pas voulu fléchir le genou devant Dieu. Et je voulais mener ma propre vie. tout en étant conscient que j'étais un pécheur, que j'étais perdu. J'entendais l'évangile, je l'ai entendu des multitudes de fois. Je peux vous dire que mon cœur était très touché en entendant l'évangile à plusieurs reprises, mais je voulais vivre un petit peu quand même dans le monde. Ah, j'aimais le monde, hein. Et puis un jour, la grâce de Dieu a été quelque chose de tellement aveuglant. J'ai compris que j'étais perdu dans mes péchés, que j'avais transgressé la loi de Dieu, que j'étais un rebelle. Et j'ai fléchi le genou, je me suis mis à genoux devant Dieu et je lui ai dit: Seigneur, sauve-moi, pardonne mes péchés, je suis un pécheur, j'ai mérité toute ta colère. Et je peux vous dire, le jour où j'ai compris que j'étais un pécheur, si l'enfer s'était ouvert sous mes pas, je peux vous dire, c'est le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, j'ai dit: Seigneur, tu es juste. J'étais en train de travailler sur un chantier, on était toute une équipe de jeunes, on était 8. 8 jeunes à travailler, et c'est bon, j'étais assez costaud et je pouvais maintenir 7 ouvriers sur le plancher avec le béton. C'est moi qui faisais le béton et c'est eux qui le mettaient. Et je capable de les alimenter tous les 7. Donc j'étais content de moi, hein, il n'y a pas de problème. Et puis en une seconde, la seconde d'avant, je ne savais pas. La seconde d'après, j'étais convaincu de péché. Je me suis réveillé, je dis: Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis regardé, je regardais tout ce qui était autour de moi. J'ai dit: Je suis perdu. Je suis perdu. Je vais en enfer. Et si l'enfer s'était ouvert devant moi, si la route s'était ouverte et que l'enfer était apparu devant moi, j'aurais dit: Seigneur, tu es juste de m'y envoyer. C'est normal. J'ai péché. Je suis coupable devant toi. J'ai demandé à Dieu seulement le temps. Je ne lui ai pas demandé une longue vie. Je dis: Seigneur, donne-moi seulement le temps de me repentir. Après, tu fais de moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Et ce jour-là, j'ai été sauvé. J'ai demandé pardon à Dieu. Mes péchés ont été effacés. J'étais libéré. J'étais un homme affranchi totalement. Et j'ai compris à ce moment-là l'immensité de la grâce de Dieu pour un misérable pécheur comme moi, qui avait mérité le châtiment, qui avait mérité la colère de Dieu. Je l'avais mérité pleinement. Et je suis encore conscient aujourd'hui, après bien des années, je suis encore conscient de la grâce de Dieu qui m'a été offerte, que j'ai acceptée, et par laquelle j'étais affranchi, sauvé, lavé de mes péchés. Quand je lève mes regards vers Dieu, je peux lui dire: Mon Père, et lui dire: Mon Père, aie pitié de moi, je suis dans la détresse. Mon Père, viens à mon secours. Il me reçoit comme un Père. La grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pas un petit nombre, pas seulement le nombre que nous sommes ici, mais la grâce de Dieu pour l'humanité tout entière a été manifestée dans la personne du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour que nos péchés soient effacés, pour que nous puissions être purifiés, pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Vous êtes un petit pécheur, vous êtes un grand pécheur. Cela devant Dieu n'a pas vraiment d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est est-ce que vous êtes sauvé ou est-ce que vous n'êtes pas sauvé? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Toute la question est là. Ce n'est pas le nombre de vos péchés. Il y a des petits pécheurs qui vont en enfer. Il y a de grands pécheurs qui ont été acceptés le Seigneur Jésus et qui ont été sauvés. Le premier pécheur sauvé, c'est le brigand sur la croix. Et quand on dit brigand, c'est un petit mot. C'est le meurtrier sur la croix. Parce qu'il est dit dans un évangile qu'il était sur la croix à cause d'un meurtre et d'une sédition. Donc c'est pas seulement un petit voleur à l'étalage. Hein. C'était un meurtrier. Et le premier qui a été sauvé, c'est un meurtrier. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu un voleur qui s'est repenti. Hein. Vous avez l'histoire de Zachée. C'était un voleur, pas un petit voleur. Hein. C'était ce qu'on appelle en bon français un arnaqueur. Il faisait profiter de sa situation pour obtenir des pots de vin et des choses comme cela. Voilà. Il y a des multitudes de personnes qui ont été acceptées, des petits et des grands pécheurs, pour tous les hommes. Pas un est accepté, pas est excepté. Tous. Il suffit de se reconnaître comme un pécheur perdu, pour bénéficier de la grâce de Dieu, de la merveilleuse grâce de Dieu. Mais vous savez, on a tendance à oublier que nous étions des pécheurs perdus, que nous avions mérité l'enfer, que le châtiment de Dieu était juste et que Dieu avait raison. C'est pour mesurer la grâce de Dieu et la gravité de nos péchés, il faut regarder à la croix. Si vous regardez la croix, vous avez le Fils de Dieu qui a été cloué sur une croix. Et c'est la gravité de nos péchés qui nous montre le prix qui a été payé. Et si vous avez tendance à oublier la purification de vos anciens péchés, et c'est ce que Pierre reproche à ceux à qui il l'écrivait, vous avez oublié la purification de vos anciens péchés. Faudrait le lire, hein. Mais il y a des personnes qui ont tendance à oublier qu'ils ont été sauvés, qu'ils ont été lavés de leurs péchés, qu'ils ont été réconciliés avec Dieu. Alors, on s'approche de Dieu, tout naturellement, tout va bien, et on n'est pas reconnaissant. Ce matin, dans ma méditation de ce matin, avant de venir pour le culte, eh bien, c'était sur la reconnaissance, le manque de reconnaissance. Rendez grâce, louez le Seigneur. Nous avons tout reçu, nous avons tellement de biens, nous avons tellement de choses, et nous le recevons comme si c'était un dû, comme si Dieu, eh bien, il nous devait quelque chose. C'est nous qui devons à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix, nous avons été sauvés. Nous étions des pécheurs, nous étions perdus. Et nous ne pouvons pas prendre la grâce de Dieu, la miséricorde infinie de Dieu, comme quelque chose de banal. Voilà, c'est arrivé un jour, j'étais sauvé, je suis sauvé maintenant, je n'irai pas en enfer. Et souvent, nous en parlons comme d'un fait divers, comme de quelque chose qui a été, c'est arrivé, j'ai fait le bon choix. Voilà, tout est naturel, tout est normal. Mais il est arrivé quelque chose d'immense, quelque chose d'immense. Nous n'avons pas mesuré à quel point nous étions des pécheurs, à quel point nous avions mérité la colère de Dieu. Mais nous avons été sauvés. La grâce de Dieu, la miséricorde infinie de Dieu. Dieu a posé sa main sur nous et nous a lavés de nos péchés. Je voulais souligner tout cela parce que c'est un mal dans l'Église que de ne plus se souvenir de la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme si la grâce de Dieu n'avait jamais existé. Oh, ils en parlent, c'est un mot, voilà, il y a un petit mot, il y a quelques lettres. Mais la grâce de Dieu, c'est une action immense. Un jour, vous serez dans la présence de Dieu pour l'éternité, par grâce. Vous avez des multitudes de choses, par grâce. Et donc nous devons nous souvenir de tout cela parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde infinie de Dieu. Et je peux dire qu'il y a quelque chose qui... Il suffit que Dieu me parle, que je lise le mot grâce et il y a quelque chose qui en moi qui se brise. Parce que je me dis, mais j'ai été sauvé par grâce. Et même en parlant, après des années de vie chrétienne, je parle encore de la grâce de Dieu, ma voix tremble. Je dois faire une petite pause pour le dire, parce que c'est quelque chose de merveilleux qui a bouleversé ma vie. J'ai été un homme changé. Il y a avant, il y a après. J'ai une photo qui a été prise, c'était ma carte d'étudiant. Donc j'ai un jour détruit la carte d'étudiant parce qu'il y avait des choses écrites dessus que je n'aimais pas, mais j'ai gardé la photo. C'est pas l'homme que vous voyez ici, hein. C'est pas le visage, hein. Vous ne pouvez pas me reconnaître sur cette photo. Et j'ai une photo qui a été prise quelques mois, peut-être un mois après ma conversion. C'était tout à fait une autre personne. Ça se voit sur mon visage. Il y a quelque chose qui a été changé à l'intérieur et qui a transformé tout le reste. Et quand j'en parle encore, ça tremble. Parce que c'est la grâce de Dieu. Et c'est merveilleux, la grâce de Dieu pour un misérable pécheur, pour un rebelle. Pour quelqu'un qui ne se soumet pas, quelqu'un qui ne fléchit pas le genou devant Dieu, qui ne reconnaît pas son Créateur, qui regarde son Créateur avec dédain. Oh, je n'ai jamais blasphémé, jamais. Et je peux dire que pendant mon adolescence, et bon, donc même avant, jamais je n'ai dit un gros mot, et donc pas un blasphème. Je n'ai jamais pris le nom de Dieu en vain. Je respectais. Et j'estimais que ceux qui prenaient le nom de Dieu en vain et qui disaient des gros mots, c'était des faibles. Et je ne voulais pas être un faible. Donc j'ai dit, si tu te donnes un coup de marteau sur le doigt, tu es un homme. Tu serres les dents, les poings, et tu dis, c'est normal, j'étais maladroit. Et c'est comme ça que je réagissais. Même une petite expression, Je disais, tu es un Indien, parce que je lisais les récits de cow-boys et d'Indiens du Far West. Et donc, les Indiens étaient des hommes qui résistaient à la douleur. Alors, j'ai dit, tu es un Indien. On pouvait me frapper. Je pleurais pas, je criais pas, je disais rien. Je dis, tu es un Indien. Donc, je disais pas de gros mots. Donc, très bien, parfait. Tout allait bien. Dieu, je n'avais pas blasphémé son nom, mais j'avais été rebelle. Et la grâce de Dieu est arrivée un jour, et j'ai été sauvé. Et c'est cette histoire qui est la mienne, c'est la vôtre aussi. C'est vous aussi, un jour, vous avez été sauvé. Un jour aussi, vous avez été réconcilié avec Dieu. C'est des moments inoubliables. C'est quelque chose qui saisit le cœur, qui remplit votre vie. C'est Dieu est brusquement devenu votre sauveur. Il est devenu votre Dieu. Et il y a une parole que j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples juste avant après la résurrection. Il dit, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est des paroles sublimes, des paroles qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur Jésus vient de ressusciter. Il a triomphé de vos péchés, triomphé de votre mort spirituelle. Il était prêt à rentrer dans le ciel pour dire, voilà, j'ai payé pour les coupables. Maintenant, ils peuvent être des enfants de Dieu. Ils peuvent dire à Dieu, mon Dieu. Avant, nous étions des rebelles. Avant la crucifixion, nous étions perdus. L'humanité était perdue. Mais à partir du moment où le Seigneur Jésus a donné sa vie et où il est ressuscité, eh bien, le rachat, le salut était possible. Le pardon de nos péchés était devenu possible. Alors à ce moment-là, eh bien, il a pu prononcer ces paroles. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Quelle parole immense, hein? C'est le ciel qui est ouvert. C'est toutes les bénédictions qui sont à notre disposition. Tout ce que Dieu a en réserve, il l'a pour nous. Nous sommes ses enfants. Vous savez, j'ai trois enfants. Bon, j'ai pas grand-chose dans la vie, hein. Je n'ai jamais cherché à avoir grand-chose. Donc, si on ne cherche pas à avoir grand-chose, on n'aura pas grand-chose. Donc, j'ai jamais mis mon espérance dans les biens matériels. Donc, je n'ai pas beaucoup de biens matériels. Mais si j'en avais, c'est mes enfants qui en héritent. C'est pas les étrangers. Et si nous pouvons appeler Dieu notre Père, eh bien, nous sommes héritiers des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu. Des richesses de Dieu. Oh ben bien sûr, ce ne sont pas forcément des richesses matérielles, mais il y a des richesses spirituelles qui sont immenses et qui ont tellement plus de valeur que tous les biens matériels. Ce sont ces richesses-là, c'est les vraies, celles qui durent éternellement. Et quand nous disons mon Père, il y a tout le reste qui est derrière. C'est quelque chose d'immense, plus vrai que vous pouvez l'imaginer, parce que la grâce de Dieu a été manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre et il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Quand nous parlons de la grâce de Dieu, eh bien nous parlons aussi de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nous avons la grâce, c'est vrai, nous sommes au bénéfice de toutes les bénédictions parce qu'il y en a un qui a donné sa vie pour nous. Il y en a un qui a payé le prix. Parce que le salaire du péché, c'est un verset que nous avons appris, hein, c'est la mort. C'est la mort éternelle, hein. C'est pas la mort, hein, on n'est pas dans la tombe, mais c'est la mort éternelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est le salaire du péché, c'est la rétribution, c'est le paiement du péché, c'est la mort. Et c'est le châtiment éternel. Et il a fallu que quelqu'un paye notre rançon, paye ce prix, paye ce salaire. Si je suis sauvé, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. C'était la grâce de Dieu. Est à ce prix-là. Elle n'est pas. Comment dire? Dieu n'a pas marchandé le prix. Il n'a pas fait un rabais sur le prix à payer. Il a payé le maximum. Personne ne peut lui reprocher que le salut est au rabais. Il est complet, total, définitif. Il a donné ce qu'il y avait de meilleur. Vous savez, j'ai un fils. Je l'aime beaucoup. Je ne le donnerai pas pour vous, hein. Ah, ça, je peux vous le garantir, hein. Je l'aime. Je ne me donnerai pas pour qu'il meure, c'est pour vous, hein. Mais le Père, Dieu, le Père, lui, a envoyé son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Ça, c'est la grandeur de la grâce de Dieu. l'immensité de la grâce de Dieu, le Fils de Dieu est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés, pour mourir sur la croix. Il a dit lui-même, je viens pour donner ma vie. Je veux dire une chose, c'est que le Père aurait pu donner sa vie pour nous. Et je peux vous dire que le prix, si le Père avait donné sa vie pour nous, le prix aurait été plus bas. Parce que donner la vie de quelqu'un d'autre, que l'on aime infiniment, comme Dieu aime le Fils, c'était le plus haut prix. Le Père ne pouvait pas donner plus que ça. Sa vie aurait été en dessous du prix. Et il a donné le prix maximum pour que nous puissions être sauvés. La grâce de Dieu a été manifestée pour nous, pécheurs. Nous étions perdus et il nous a sauvés. C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'immensité de la grâce de Dieu. Et moi, je suis désolé, mais mes paroles et mes mots sont si faibles et si petits pour décrire ce qu'est la grâce de Dieu que j'en suis troublé moi-même, parce que j'aimerais bien dire les choses bien mieux que cela. J'aimerais bien rendre vraiment gloire à la grâce de Dieu et en parler d'une manière beaucoup plus sublime, et sublime tout simplement, et dépasser les simples mots humains. Mais je peux vous dire simplement que la grâce de Dieu est une source de bénédiction. Elle est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et malheureusement, nous, après avoir été sauvés, eh bien nous méprisons la grâce de Dieu. Nous la mettons de côté. Même Paul disait aux Corinthiens, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Il y a des personnes qui reçoivent la grâce de Dieu comme si c'était une broutille, comme si c'était quelque chose, ben voilà, je suis sauvé. Et j'ai rencontré ces personnes superficielles qui étaient capables de parler de choses aussi grandes et aussi profondes avec un dédain que troublant. Je me dis, c'est pas possible. Et je peux vous dire que l'humanité, nous sommes tous différents. Hein. Il y a des meilleurs que d'autres et il y a des gens plus sérieux que d'autres. Mais nous sommes chrétiens. Nous devons mesurer ce que nous avons reçu. Parce que nous avons reçu immensément. Et je vous demande souvent, et Gabriel nous a dit, de vous arrêter et de faire les comptes. Et de dire, mais mon Dieu, tu as tant fait pour moi. Si vous n'avez jamais passé une journée à vous rappeler simplement tout ce que Dieu a fait pour vous, depuis le moment de votre conversion jusqu'au moment où vous êtes arrivé aujourd'hui, et vous dire, voilà, Seigneur, tu as fait ceci, et tu as fait ça, et tu m'as conduit, et tu m'as dirigé, et tu m'as protégé. Et je peux vous dire, vous pouvez même commencer le compte, même avant votre conversion. Combien de fois Dieu vous a protégé ? Combien de fois ? Avant même que vous soyez converti, que vous soyez né de nouveau. C'est Dieu, eh bien, vous protégez et vous gardez. C'est vous soutenez. Ce n'est pas une petite chose, vous savez, que la grâce. Il faut s'arrêter. Il faut poser la question. Il faut se poser des questions. Il faut se dire où j'en suis. Est-ce que je suis sérieux avec Dieu ? Est-ce que je suis conséquent avec moi-même ? Est-ce que Dieu peut compter sur moi ? Est-ce que je peux regarder vers Dieu avec tout ce que je fais ? Je pense qu'il faudrait, et je le conseille souvent, je vous le dis, arrêtez-vous, posez-vous des questions, remettez même certaines actions en question, des actions même, je vais vous dire, même elles sont très légitimes. Je ne vous parle pas de la débauche, je ne vous parle pas de tout ça, c'est normal de dire non, je ne veux même pas, mais des choses normales qui mangent votre vie, qui vous rendent esclaves. On ne peut pas dire que c'est un péché, mais c'est quelque chose qui ne vous remplit pas. C'est quelque chose qui vous prend du temps, quelque chose qui n'a pas d'importance. La grâce de Dieu est arrivée pour vous, et vous réduisez votre vie à des choses sans intérêt, sans valeur. C'est pour ça qu'il est dit, elle nous enseigne. La grâce de Dieu, qui est une source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne, elle nous ouvre les yeux, elle nous parle, elle nous éduque, elle nous montre le bon chemin. Et parce que nous sommes conscients de la grâce de Dieu, conscient du privilège immense que nous avons, combien nous sommes redevables à la grâce de Dieu, combien la grâce de Dieu est intervenue pour nous, mais on s'arrête, mais ça, je ne peux pas le faire. C'est la grâce de Dieu qui a coulé pour moi. Dieu m'a fait grâce. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour moi. Ça, ces choses-là, elles ne sont pas pour moi. Pour le monde peut-être, mais pas pour moi. C'est quelque chose. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alors, le mot piété n'a pas une bonne résonance dans nos oreilles. Parce qu'il y a la fausse piété. Elle a tellement fait de ravages dans notre pauvre pays que dès qu'on parle de piété ici en France, eh bien, il y a des gens pour dire « Oula !» On connaît hein, les bigots, les bigotes, les radoteuses, les commères, on connaît. Je me rappelle d'une histoire dans le village, dans le Roussillon, la vieille dame, elle est toujours à la messe, hein. Oh, il n'y a pas de problème. Mais elle allait, et puis elle volait dans le marché, elle volait. Alors, elle avait bonne réputation de voleuse. Mais attention, c'était un pilier de l'église. C'était une dame que monsieur le curé recevait bien. Eh oui, c'était une des pieuses ouailles de cet homme. Et donc, tout le monde connaissait. Alors, quand on parle de piété, après des événements de ce genre, ben, vous êtes malvenu. Parce que c'est la fausse piété. Et puis c'est la fausse religion aussi. Donc tout est faux. Mais il y a une vraie piété. Et c'est de celle-là qu'il est question. Et la vraie piété, elle n'est pas remplie de préjugés, remplie de se mettre en avant et de dire « voilà, c'est moi qui ai raison, c'est ceci et cela ». La vraie piété, elle s'humilie, elle descend, elle se perd, elle disparaît. La vraie piété ne se remarque pas. Elle se remarque, si, quand elle se remarque, c'est dans les actions. C'est dans ce qu'elle fait de bien. Parce que la piété, la vraie, elle produit des œuvres. C'est ce que Paul dit. Hein. C'est qu'il lui appartient de purifier par lui et zéler pour les bonnes œuvres. À cause de la grâce de Dieu qui a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne, elle nous parle. Il y a une vie pieuse. Une vie conséquente, une vie à la mesure du don que nous avons reçu. Il y a une vie de prière, il y a une vie de méditation de la parole de Dieu, il y a une vie de communion fraternelle. Et c'est où on est sérieux, on n'est pas en train de plaisanter et de rire, de se taper sur l'épaule et de raconter les dernières blagues. Parfois, je me dis, bon, mes frères, j'aimerais bien vous dire qu'on plaisante un peu trop dans l'Église. On est quand même des frères et sœurs, des chrétiens. Est-ce qu'on pense parfois à prier, à intercéder, à demander au Seigneur de venir en notre secours, de purifier son Église, de nous amener plus loin? Je me rappelle, cette expression, c'était dans un livre de théologie pastorale. Bon, alors, théologie pastorale, c'est comment un pasteur doit se comporter dans la pratique. Voilà, c'est ça la théologie pastorale. C'est la vie pratique d'un pasteur. Et donc, je vais donner une expression que les jeunes connaissent bien, mais elle a une autre définition dans ce livre. Le pasteur doit être un homme grave. Alors, quand on dit ça, hein, quand on est jeune, il est grave. Mais ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire la gravité, c'est-à-dire un homme sérieux. Il devait être dans son apparence, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler, dans sa manière d'avoir des relations avec les autres, il devait être sérieux. Pourquoi ? Et il y a toutes les raisons pour lesquelles. Parce qu'il y a un monde qui se perd. Il y a des âmes qui vont en enfer. C'est une chose sérieuse. Comment ? Je peux plaisanter, rigoler, mais ils vont en enfer. L'enfer est éternel. L'enfer, c'est un feu qui ne s'arrête pas. Je veux pas rentrer dans toutes les définitions possibles de l'enfer. On pourrait écrire et dire, et on ne sait pas vraiment ce que c'est que cet enfer et ce feu qui ne s'éteint pas. Mais en tout cas, c'est un lieu où on regrette d'y être. Et on y regrette éternellement d'y être. Ça ne changera pas. C'est pour l'éternité, jour après jour, après jour, après jour. Éternité. Il n'y a plus de temps. C'est fini. les choix qui ont été faits sur la terre ne se peuvent plus être rattrapés, perdus pour l'éternité. Et on plaisante beaucoup, vous savez, mais il y a des choses graves, des choses qui doivent bouleverser notre cœur. Parce que si le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous, c'est que le châtiment est grave. C'est que les péchés ne sont pas des peccadilles. Ce n'est pas des petites choses. Il y a un homme qui a commis un jour une peccadille. Vous savez, il était dans un beau jardin. Il y avait des magnifiques choses tout autour de lui. Mais il y avait un arbre duquel il ne devait pas toucher. Il ne devait pas prendre le fruit, pas en manger. Il a mangé, il a croqué. Bon, je vous laisse la pomme, hein, si vous voulez. Ça n'a aucune importance. Il a croqué dans un fruit. Voilà. Il a péché. Et beaucoup de gens disent, vous vous rendez compte, Dieu l'a puni à cause de ça. Mais je peux vous dire, cet homme, il a compris la gravité de ce qu'il a fait le jour où il a enterré son fils, Abel, tué par son autre fils. Là, il a compris que croquer dans la pomme, hein, excusez-moi la pomme, eh bien, c'était un acte grave. Parce que derrière ce geste qui semblait peu de choses, il y avait tous les crimes que nous connaissons aujourd'hui. Vous allumez la télévision, vous regardez sur Internet, vous pouvez, et vous voyez, la liste est longue. Les milliers et les millions de personnes qui meurent. Chaque instant, il y a des gens qui meurent. Pas forcément dans un attentat, pas forcément la tête coupée, pas forcément, ils meurent tout simplement. C'est le péché d'Adam. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ce que vous voyez, c'est méchanceté, c'est ceci et c'est cela. On peut allonger ainsi, je ne veux pas rentrer dans toute cette souillure et dans toute cette boue. Mais je peux vous dire, tout ça, ça a commencé là, pas ailleurs. C'était une peccadille. Et nous disons, oh, bof, vous savez, dans ma vie, il n'y a pas grand-chose, vous savez, il n'y a que des peccadilles. Mais ces peccadilles, elles peuvent faire beaucoup de mal et aller beaucoup plus loin que vous le pensez. L'impiété. Nous sommes coupables de ne pas être sérieux dans notre vie chrétienne, de ne pas entretenir une vraie communion avec Dieu, un vrai dialogue avec Dieu, une vraie proximité avec Dieu, où Dieu parle et nous l'écoutons et nous lui obéissons. Et combien de chrétiens ont choisi le chemin de la désobéissance? Et ils l'ont choisi délibérément. Voilà. Ils avaient un choix de facilité. C'est plus facile de marcher dans ce chemin que de marcher dans celui-là. Donc la volonté de Dieu est de marcher dans ce chemin. Mais non, ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était simplement le chemin le plus facile. Et vous avez pris ça pour la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, parfois, c'est le chemin difficile. Alors je ne veux pas dire que parfois, ce n'est pas le chemin facile, mais ça peut être aussi le chemin difficile. Et ce n'est pas un critère de choix que de dire parce que c'est facile. Et c'est, vous savez, se lever plus tôt le matin pour prier et pour ouvrir votre Bible, ce n'est pas le chemin facile, vous savez. Le chemin facile, c'est de dire, j'ai encore une heure, pas de problème, hein. Je vais faire dormir et je viendrai plus tard. C'est une multitude de choses que nous pouvons négliger et remettre à plus tard, remettre en question. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne. Elle nous montre ce que nous devons être, comment nous devons nous comporter. C'est la mesure de la grâce de Dieu, de la miséricorde infinie de Dieu. Je peux vous dire, fléchissez le genou devant Dieu. Fléchissez-le aujourd'hui, parce que dans l'éternité, vous le fléchirez quand même. Et il vaut mieux l'avoir fléchi aujourd'hui que de devoir le faire parce que nous serons devant l'immensité, la grandeur de Dieu, sa sainteté infinie. Et là, nous ne pourrons pas tenir debout. Hein. On sera obligé de fléchir le genou. C'est même l'apôtre Jean, qui était quand même un homme de Dieu, et qui était, quand il a vu Jésus-Christ, comme il n'avait probablement jamais vu avant. C'était le disciple qui avait la tête penchée sur la poitrine du Seigneur Jésus pendant le dernier souper. Hein. Et bien, ce disciple-là, il a vu le Seigneur Jésus dans sa gloire. Il est tombé, la face contre terre. Pourtant, c'était Jean. Et je peux vous dire, nous, petits pécheurs, petits rien du tout, eh bien, nous tomberons quand même. Il vaut mieux avoir fléchi le genou et être tombé déjà maintenant. Et avoir dit, Seigneur, prends ma vie. Dirige tout. Je te remets toute ma vie. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher dans tes voies. Je veux faire ta volonté. La grâce de Dieu est arrivée pour moi. Un jour, j'ai été sauvé. Je te dois ma vie. Je ne vis pas pour moi-même. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour que tu sois glorifié, pour que tu sois honoré par chacune des secondes de ma vie. Je ne veux pas faire une action qui te déplaise, pas une action qui m'écarte d'un millimètre de toi. Je veux vivre pour celui qui a donné sa vie et qui est ressuscité pour ma justification, pour qu'un jour je sois dans sa présence pour l'éternité. Ô mon Père, gloire à ton nom.